Présenté par l'Ordre des administrateurs agréés, le podcast Profession gestionnaire abordera des sujets en gestion au travers d'entrevues, de conseils et d'outils. Le terme écohérence signifie une économie qui est compatible avec l'écologie. Ce terme a été créé par un Québécois au début des années 2000 et vraiment, il résonne incroyablement moderne. Lorsqu'on discute avec une personne dans la rue, mettons, ce principe semble assez intuitif, évident. Mais pourtant, lorsqu'on cherche à le décliner concrètement pour la société, les organisations ou les individus, on bute souvent sur les exemples ou les applications concrètes. C'est pas anormal, c'est pas une fatalité. Pour approfondir sur le sujet, on reçoit aujourd'hui Frédéric Gorrier, ADMA, CMC, partenaire du groupe Trincadis, société de conseil implantée à Montréal, dont la vision est de guider et d'accompagner vers la performance durable. Bonjour Frédéric.
Bonjour Béatrice.
Donc, tout d'abord, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se cache un peu plus concrètement derrière le terme, la notion d'écohérence.
Alors, je vais essayer de définir ça de manière un petit peu plus concrète. Alors, pour avoir une économie qui soit compatible avec l'écologie, en fait, ça signifie d'avoir une société où le bien-être de l'humanité et la durabilité de son environnement passent au premier plan. Alors, je voudrais vous citer des exemples concrets qui permettent d'illustrer ce changement de paradigme. J'en ai cinq qui me viennent en tête. Le premier, c'est que l'économie traditionnelle, c'est une économie qui fonctionne en boucle fermée. C'est-à-dire, quand vous parlez avec les économistes, ils vont vous parler des interactions entre le marché, les ménages et l'État. Et on devrait passer, normalement, en économie écohérente, vers une approche qui est ouverte, d'une économie qui interagit avec le système sociétal et puis le système biologique dans lequel on vit, avec des hypothèses que les ressources sont finies, qu'on utilise de l'énergie, qu'on produit des rejets, qu'on produit des déchets et qu'on doit produire normalement du bien-être. Ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, c'est que dans une économie traditionnelle, on va être dans un rationnel individuel, c'est-à-dire qu'est-ce que je gagne, ce que les Anglais appellent « what's in it for me ». Et normalement, dans une économie cohérente, on doit passer dans une logique de communautés responsables qui vont penser sur plusieurs générations et qui doivent répondre à une question « qu'est-ce que nous gagnons collectivement ?». Ensuite, il y a un troisième volet de ce que c'est qu'une économie cohérente, c'est on doit passer d'une logique qui serait, que je qualifierais d'analytique. Les financiers, ils vont découper la comptabilité en comptes très, très précis, très, très détaillés, qui sont finalement assez statiques. On devrait passer à une économie qui va traiter la complexité, c'est-à-dire qui a une approche systémique, qui ne va pas juste voir l'aspect financier des choses, mais qui va regarder les coûts du carbone, qui va regarder les gains sociaux, qui va regarder le coût de ce que c'est que de perdre de la biodiversité. Ce qui favorise par exemple des pandémies. On va prendre en compte le coût de régénération des ressources. Alors par exemple, les gens qui font des ressources forestières, ils vont compter régénération des ressources. On va compter les impacts sur la santé publique. Ça, c'est une économie qui est systémique et qui traite la complexité. Un quatrième exemple que j'ai évoqué tantôt, c'est l'économie traditionnelle part du principe que les ressources sont infinies et qu'elles ne coûtent rien. Ça, c'est l'économie du XVIIe siècle et qui est aujourd'hui toujours l'hypothèse avec laquelle on travaille en finance. On doit passer une économie où la conception doit être basée sur des ressources qui sont limitées et qu'on doit avoir le temps de régénérer. Et puis, le dernier point pour moi, ce qui est un point vraiment important parce qu'il suscite des passions, c'est qu'on doit sortir d'un dogme qui est le dogme de la croissance. On doit toujours tout faire pour la croissance, y compris s'endetter. Dans une économie cohérente, on ne va plus parler de croissance. Alors, je ne veux pas forcément me faire l'avocat de la décroissance, bien que normalement, une baisse des ressources et une limitation de l'énergie doit amener à une décroissance de l'économie, mais je pense qu'il faut être agnostique sur la croissance parce que le PIB, ce n'est pas le bon indicateur. On doit se préoccuper plutôt du résultat en termes de progrès et de bien-être collectif.
Ouais, absolument, c'est très intéressant. Et comment on rend ça concret, cette notion d'économie éco-érante, comment on rend ça concret pour une entreprise et un gestionnaire, disons?
Alors, ça, c'est un vrai défi qui est à la fois collectif et individuel. Individuel parce qu'il faut intégrer les conceptions dont je viens de parler, et collectif parce que l'organisation doit aussi se mettre à raisonner différemment. Alors, pour donner une piste aux gestionnaires qui nous écoutent, si vous êtes en situation d'influencer ou de travailler avec votre comité de direction, vous pouvez, à l'occasion d'une réflexion stratégique, poser par exemple deux questions. La première, ça pourrait être de dire quelle est l'utilité de notre entreprise en tant qu'organisation pour l'humanité, pour son environnement. Est-ce qu'on sert à quelque chose? Et si on sert, à quoi on sert? Ou bien, en quoi est-ce que notre organisation, est-ce qu'elle contribue à améliorer le bien-être collectif? Ces deux questions, en fait, sont intéressantes parce qu'en pratique, elles amènent à se poser les bonnes questions. Moi, personnellement, je viens du monde des opérations et de la chaîne d'approvisionnement. Et depuis plusieurs années, les clients nous interpellent sur des sujets pratiques de maîtrise des stocks, maîtrise des inventaires, éviter les ruptures, éviter des surstocks, ou bien comment faire pour correctement planifier ou comment sécuriser les approvisionnements. À force d'être confrontés à ces sujets, nous, en tant que professionnels de l'amélioration, on cherche les causes racines de ces sujets et à chaque fois, on va être amené à toucher les quatre systèmes complexes de l'entreprise. Il n'y en a pas cinq, il n'y en a pas six, il n'y en a pas deux, il y en a quatre. Et donc, les quatre systèmes de l'entreprise auxquels on doit toucher, c'est les systèmes d'information, les systèmes de gestion de connaissances et de compétences. On va toucher aussi au système qualité, au système d'amélioration continue. Et puis, on va toucher à la chaîne de valeur qui va du fournisseur au client du client. Puis ça, c'est ce qu'on appelle aussi un système complexe. Et donc, ce qu'on découvre, c'est que comme on vit dans un monde qui est de plus en plus fragile, anxiogène, non linéaire et incompréhensible, c'est un acronyme qui s'appelle FANI, qui est venu remplacer VUCA, dans lequel toutes ces méthodes, les outils et les approches et les compétences autres que l'intelligence artificielle aident de moins en moins à résoudre durablement les défis et les enjeux. C'est ce que nous, on constate quand on discute avec nos clients. On est face, en fait, aujourd'hui à une complexité qui est telle que seule, en fait, l'intelligence collective peut nous permettre de faire face à ces défis avec une forme de résilience. Et c'est pour ça que j'invite les gens à discuter en comité de direction en entreprise. En fait, la seule voie pérenne qu'on voit par la pratique et par le terrain, c'est une voie qui est celle de la collaboration et de la coopération au sein de ce qu'on pourrait nommer une cellule de prospective qui vise à se poser des questions sur quels sont les défis qu'on aura à résoudre dans l'avenir. Et l'idée de se poser ces questions-là, c'est d'essayer de se préparer pour les disruptions futures qui vont arriver, parce qu'elles ne manqueront pas d'arriver. Et si on s'est un petit peu posé pour discuter ensemble sur les problèmes qu'on devrait résoudre, le jour où ça arrive, comme on a fait des scénarios où on a discuté des risques, on sera mieux préparé pour y répondre.
Parlons-en, Frédéric, de ces cellules de prospective. Quel est leur bénéfice à ces cellules?
Alors, en fait, une cellule de prospective, ça fonctionne un petit peu sur le même principe que ce qu'on appelle en ressources humaines le co-développement. C'est-à-dire un groupe où quelqu'un vient poser un problème une personne vient poser un problème à un groupe et chaque membre du groupe vient lui apporter des idées et de la rétroaction. Une cellule de prospective, ça permet à un comité de direction ou à un groupe d'experts dans une compagnie de s'aligner sur les défis qui sont les plus importants à résoudre pour être en mesure de rendre faisable le futur qu'on vise. Alors, je peux illustrer ça par des exemples. Si je suis dans l'industrie de l'automobile et que je dois m'adapter à un monde sans énergie fossile, où les usagers vont préférer louer et utiliser les transports en commun plutôt que d'acheter les voitures, comment est-ce que je dois faire évoluer ma compagnie ou ma filière ? Si je suis dans l'industrie du plastique, qui aujourd'hui est approvisionnée à 95% par des produits chimiques qui viennent de l'énergie fossile, comment je continue à produire des emballages qu'on n'a pas pu remplacer par des matières un peu plus durables ou biodégradables, mais sans utiliser des composants chimiques issus du pétrole. Comment je dois raisonner, comment je dois me réorganiser? En fait, ces cellules, une fois qu'elles ont posé les problèmes et qu'il faut résoudre et qu'elles ont identifié des causes racines, elles doivent surveiller tous les événements et les liens entre les événements et les défis qu'elles ont identifiés pour voir si leur défi grandit ou si leur défi diminue. Par exemple, si je reprends l'exemple du plastique, s'il y a une loi qui interdit l'utilisation des composants pétroliers dans la fabrication du plastique, bah, mon problème, il arrive demain matin dès lors que la loi va être activée, par exemple. Si je prends un autre exemple, quand on regarde les batteries électriques, on en parle beaucoup, il peut y avoir des restrictions sur les composants. Puis quand on regarde la chaîne d'approvisionnement complète mondiale d'une batterie électrique, on peut se poser la question sur la pérennité de cette filière de manière très sérieuse. Et en fait, aujourd'hui, ça rend la propulsion à l'hydrogène sans doute beaucoup plus raisonnable pour le long terme. Et quand vous prenez le premier constructeur mondial qui s'appelle Toyota, ils ont annoncé en début d'année 2023 qu'ils sortaient de la propulsion électrique pour progressivement équiper l'ensemble de leurs véhicules sur de la propulsion à hydrogène. Voilà, puis peut-être un dernier exemple pour illustrer ça, c'est pour reparler des plastiques. Si on prend la collecte et le traitement des déchets et qu'on fait ça de manière adéquate, ça permet, par exemple, d'envisager une chaîne d'approvisionnement des fabricants de plastique qui soit complètement circulaire. En utilisant uniquement les déchets, on pourrait même imaginer qu'on va désenfouir les vieux plastiques de nos sites d'enfouissement et on peut refabriquer du plastique sans pétrole.
Très bien. Et donc, quel est le lien entre ces cellules d'entreprise et la métamorphose sociétale du Québec?
Alors, c'est là que le 21e siècle est absolument fascinant. C'est que, en fait, aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle une polycrise, c'est-à-dire que on a constaté depuis la pandémie mondiale que toutes nos sociétés modernes sont interconnectées par la chaîne d'approvisionnement et par Internet, et que cette polycrise, elle vient questionner l'essence même de nos systèmes économiques et de leur justification. Et on ne doit plus en être simplement à améliorer ou à optimiser le système économique existant, mais on doit complètement réfléchir à faire changer l'objectif. Et donc, on ne doit plus viser le profit ou la croissance, mais on doit plutôt viser l'utilité et le bien-être collectif. Et ce défi-là, en fait, il est hyper complexe. Et donc, on doit faire appel à ce que j'appellerais une intelligence hyper collective. Donc, ce n'est pas juste une cellule dans une entreprise, mais c'est être capable de connecter à l'intérieur d'un même système les trouvailles, les réflexions de toutes les cellules qu'il peut y avoir dans tous les secteurs et dans toutes les entreprises, et de mettre tout ça ensemble. On devrait donc dépasser les limites de l'entreprise pour éventuellement rassembler tous les gens d'une même industrie, y compris les concurrents, ou d'une même région géographique, pour qu'ils puissent s'aligner sur quels sont les défis prioritaires et quels sont les événements qui viennent influencer ces défis, et surveiller ça à leur propre échelle. Alors, comme on ne parle pas de solution, mais qu'on parle que de défis, c'est facile de mettre en contact normalement des concurrents. Et puis, une fois qu'on a collecté toute cette information, on devrait partager cette information avec le public dans un endroit unique pour pouvoir observer toutes les connexions de tous les secteurs et leurs évolutions dans une forme qui soit facilement intelligible par chacun d'entre nous. Ça pourrait être une carte, ça pourrait être un jeu, ça pourrait être une plateforme un peu ludique dans laquelle chacun pourrait interagir avec ce que je pourrais appeler une carte de la sagesse collective et partager ses perceptions en disant bah, tel événement, moi je suis bien d'accord avec parce qu'à mon échelle, je trouve que ça me touche ou au contraire, tel sujet, je ne vois pas du tout dans mon quotidien qu'est-ce que ça va changer. Pour moi, ce n'est pas du tout prioritaire. Et en confrontant finalement le résultat de ces cellules à l'opinion du public, on pourrait avoir une espèce de carte vivante en temps réel de qu'est-ce que l'ensemble de la population pense à un instant donné. Et avec ça, en fait, on pourra avoir une compréhension commune de ce qui est le plus important pour tout le monde, de ce qui est critique et de ce qui ne l'est pas. Et puis, imaginez qu'on puisse avoir ça en temps réel Ça veut dire que quand on doit faire changer les choses ou quand on doit influencer les institutions et les élus, c'est très facile de focaliser les forces sur les bonnes solutions. Si on avait un tel outil, en fait, on pourrait s'adapter collectivement, beaucoup plus rapidement, beaucoup mieux, et sans attendre d'avoir des analyses par des sondages, par les médias ou par des programmes politiques interposés qui vont prendre plusieurs mois, voire plusieurs années avant d'être expliqués, mis en œuvre, etc.
Comme c'est intéressant et pertinent. Merci Frédéric, c'est vraiment très instructif. Merci d'avoir abordé ce sujet à Profession gestionnaire. Donc, à retenir sur cette discussion à propos de la métamorphose sociétale, d'abord, elle est nécessaire due au fait de l'inadéquation actuelle de notre système économique avec notre survie durable en tant qu'humanité. Elle est possible, cette métamorphose, grâce à l'intelligence collective, tu l'as mentionné Frédéric, correctement canalisée dans une approche qu'on nomme cellule prospective. Et finalement, elle est applicable au niveau d'une organisation, oui, mais elle est aussi possible à l'échelle d'une industrie ou d'une région et pourrait permettre au Québec d'accéder à une capacité de s'auto-déterminer collectivement sur son futur en mode, disons-le comme ça entre guillemets, en mode remontant, c'est-à-dire que les citoyens diraient aux institutions et aux élus quoi faire et non le contraire. C'était Frédéric Gorier, ADMA, CMC, partenaire du groupe Trincadis, société de conseil implantée à Montréal. Si vous souhaitez partager sur ce sujet via les médias sociaux, ajoutez le hashtag Profession gestionnaire. Merci, chères auditrices, chers auditeurs. À la prochaine. Merci beaucoup, Frédéric.
Merci beaucoup.
Profession gestionnaire était présentée par l'Ordre des administrateurs agréés, l'Ordre professionnel des gestionnaires du Québec. Pour des articles, des outils et des formations en ligne en lien avec le domaine de la gestion, visitez le adma.qc.ca.